Bien, bonjour. Nous allons d'abord nous présenter. Je dirai quelques mots de l'établissement un peu plus tard, dans quelques instants. Donc, Nicole.
Nicole Boin, professeure de lettres histoire au lycée Lamache.
Ismaël Sadki, professeur d'électrotechnique au lycée Lamache.
Claire Sorin, je suis professeure de maths sciences et je suis ici parce que je suis professeur référent. C'est ce qu'on discutera ensemble pendant l'exposé.
D'accord. Et Bernard Javot, je suis adjoint de direction donc au lycée Lamache. Donc M. Escande disait tout à l'heure que la phase d'information auprès des élèves en début de formation était quelque chose d'important. Donc notre propos sera modeste. Il relate simplement une expérience ou un dispositif qui est en place depuis plusieurs années donc dans l'établissement et qui justement intervient dans cette phase d'information des élèves en début de formation, donc en début de seconde professionnelle. Donc c'est un dispositif qui permet de valoriser les choix d'orientation qui souvent dans le lycée professionnel sont des choix d'orientation un peu négatifs. Donc je ne veux pas développer sur le contexte que tout le monde connaît bien, le lycée professionnel qui apparaît parfois comme un lycée poubelle, la réticence des parents ou de certains parents de certains milieux à mettre leur fils ou leur fille en lycée professionnel, un sentiment d'échec chez des souvenirs assez douloureux de rencontres de parents dont l'enfant ou un des enfants était obligé de rentrer en lycée professionnel avec toute la part de douleur des parents parfois. Le mot réorienter m'a toujours interrogé. Un élève qui passe de troisième à seconde générale et technologique est orienté. Un élève qui passe de la troisième à la seconde professionnelle est réorienté. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose là à creuser, mais c'est assez étonnant. Enfin, en tous les cas, c'est significatif qu'il y a une voie royale et puis il y a une voie de garage. Encore que le mot garage m'interroge aussi. Si le garage est fait pour réparer, je suis pour la voie de garage qu'est le lycée professionnel. Bon, une orientation qui est parfois subie, tu ne peux pas aller en seconde générale, donc tu iras en lycée professionnel. Et puis une méconnaissance par les élèves donc des filières de formation. Donc le lycée Lamache, c'est qui, c'est quoi? C'est un lycée professionnel qui est situé dans le 8e arrondissement de Lyon, pas très loin d'ici. En seconde professionnelle, nous avons 175 élèves environ. Nous proposons désormais 7 baccalauréats professionnels, industriels et bâtiments. Donc nous sommes uniquement industriels et bâtiments. Nous n'avons pas de section tertiaire. Par contre, nous sommes aussi lycée technologique. Et nous avons donc des bacs technologiques qui, eux aussi, sont complètement industriels. Et donc, le nouveau bac, qui s'appelle maintenant STI 2D, que certains connaissent peut-être, qui remplace les STI, qui eux-mêmes ont remplacé les F, si j'ai bonne mémoire, enfin, etc. Et puis, un centre de formation. Donc, l'établissement lui-même représente 950 élèves. Sachant que le lycée secondaire est la plus grosse partie de cet établissement, puisqu'en lycée secondaire, on a plus de 600 élèves, qui sont majoritairement dans le lycée professionnel. Donc nous sommes confrontés, nous, effectivement, à ces réformes du lycée professionnel et du lycée technologique. Pour le signaler en deux mots, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention, l'école proposait donc jusqu'aux récentes réformes un parcours original qui était que tout élève qui rentrait dans l'établissement commençait par 2 années de BEP, puis basculait sur une première technologique, une première d'adaptation et passait le bac technologique. Donc nous n'avions pas de bac pro, nous n'avions que des classes de BEP et nous n'avions pas de seconde générale et technologique. Et donc les réformes nous ont obligés donc à proposer le parcours de 3 ans en bac pro et le parcours de 3 ans en lycée technologique que nous n'avions pas jusqu'à présent. Donc c'est vrai que toutes ces réformes ont bousculé le parcours pédagogique de l'établissement de façon assez forte. Bon, le dispositif qu'on va vous présenter, donc, c'est ce qu'on appelle la période d'observation. En fait, c'est un dispositif qui est assez ancien dans l'établissement, puisqu'il date de 1972. Et on a fêté les 40 ans. C'est au moment, je crois que c'est au moment, c'est après la création des BEP, je crois que les BEP c'est 71. Donc, il y a eu toute une réflexion dans l'établissement à ce moment-là. qui s'appuyait sur des expériences passées. Donc, cette période d'observation s'est mise en place donc à ce moment-là. Donc, l'idée de la période d'observation, c'est quoi ? C'est que l'accueil des élèves dans une filière professionnelle se fait à l'issue d'une période dite d'observation qui est actuellement de 5 semaines, qui a été de 7 semaines jusqu'à la réforme des bacs pour 3 ans. Donc, 4 semaines qui sont des semaines, j'allais dire, plus techniques. La 5e semaine étant une semaine de bilan, d'évaluation et de décision. Ça veut dire qu'un élève, quand il rentre dans l'établissement, il ne choisit pas électrotechnique, bois, etc. Il est dans une classe qui est un groupe provisoire. Donc pendant ces 5 semaines, c'est la 6e semaine qui sera affectée définitivement dans une classe. Et pendant ces 4 semaines, la 5e étant banalisée complètement, pendant les 4 semaines, donc les heures d'enseignement professionnel sont banalisées pour permettre une découverte de toutes les filières de formation, donc à raison d'une semaine par filière. Alors on a 4 grands pôles, on a 7 bacs pro, mais 4 grands pôles. On a un pôle mécanique productique, on a un pôle structure métallique qui comprend la chaudronnerie et la métallerie, pour ceux qui connaissent, on a un pôle bois agencement, et puis on a un pôle électrotechnique SEN, système électronique numérique. Voilà. Donc il y a 4 grands pôles. Donc tous les élèves passent une semaine dans ce pôle, dans chacun des 4 pôles. Donc les 2 axes de cette période d'observation sont les suivants. Donc la découverte de la filière. Vous pouvez parler aussi. Hein.
Oui, mais on n'a rien rajouté pour le moment.
Hein. Informer sur la filière. Bon, on part du principe qu'un élève qui rentre dans l'école, il ne connaît pas forcément toutes les filières, ou il ne connaît pas bien les filières, ou il méconnaît des filières. Donc un travail d'information sur la filière professionnelle. Un souci de travailler sur les représentations des métiers. Ça nous paraît très important. Les représentations des métiers ne sont pas toujours très claires, et c'est tout à fait normal par rapport à un élève de 3e. Déjà que pour les adultes, ce n'est pas très évident. Mais... Donc travailler sur les représentations des métiers, éventuellement les corriger, les redresser, mieux les analyser. Et mettre l'élève dans une situation technique simple mais significative qui lui permet de découvrir ce qu'est l'activité du métier dans ce cadre spécifique. Donc deuxièmement, c'est la phase d'accompagnement. Donc pour mettre l'élève en confiance le plus possible, l'aider à clarifier ses choix. Je suis venu, quand je suis rentré ici dans l'établissement, je voulais faire électrotech. Pourquoi je veux faire électrotech? Et puis ensuite, quand j'ai fait les 4 semaines, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi je veux le faire? Donc on essaye de clarifier un peu les choix. Et puis faire un travail d'information des parents. Alors la phase d'information, vous me complétez, hein, Ismaël, tu me complètes. Donc la phase d'information au cours, donc de, alors pour être, si c'est pas clair, vous nous arrêtez. Hein. Alors pendant ces 4 semaines, il y a des cours d'enseignement général. Hein. Donc c'est uniquement l'enseignement professionnel qui est banalisé. Hein, il y a cours d'enseignement général, donc le cours d'enseignement général, les cours d'enseignement généraux se passent normalement. Dans des groupes provisoires, mais normalement. Et donc, c'est tous les temps d'enseignement professionnel qui sont banalisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait, donc, pour la découverte de la filière? On fait un travail d'information sur la filière. C'est quoi le métier ou le groupe de métier? C'est quoi les parcours de formation? On va préparer un bac pro, après, on pourra peut-être préparer un BTS, etc. Et puis, les débouchés. Qu'est-ce qu'avec cette formation, on peut faire comme métier ou comme type de fonction dans l'entreprise? Travailler sur les représentations, donc ça j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Bon, pour prendre un exemple très simple, on a une filière agencement avec un nouveau bac pro qui s'appelle AEA, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, agencement de l'espace architectural, ça fait riche. Et donc il y a des élèves qui veulent faire donc ce bac pro AEA parce qu'ils s'imaginent architecte d'intérieur ou même architecte d'ailleurs. Alors que c'est un travail très très technique, hein, qui est celui de l'aménagement d'un espace, mais dans sa partie non pas création, mais dans sa partie technique, réalisation. Donc travailler sur les représentations des élèves. Travailler sur les aptitudes des élèves. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile, mais on en parlera dans un instant. On essaye à la fois que l'élève se rende compte si effectivement, par rapport à l'activité technique, il est à l'aise, Et puis, en même temps, donc, les professeurs essayent donc d'évaluer les aptitudes des élèves. Et puis, il peut y avoir une phase, alors selon les métiers, selon les années, une phase de rencontre aussi d'anciens élèves qui ont eu un parcours dans le métier, donc qui permet aux élèves de se projeter un petit peu dans l'avenir. Deuxièmement, la mise en situation. Je te laisse parler, Ismaël, non ?
Non, c'était simplement pour préciser que par rapport au métier, on a un temps de rencontre avec les 175 élèves où les quatre filières se réunissent et présentent les différents métiers des filières, ce qui donne une base à la mise en place de cette période d'observation. Voilà. D'accord. Et aussi par rapport au jugement des aptitudes. On prend aussi un temps, mais je l'expliquerai plus tard, pour vérifier aussi les prédispositions qu'a, ça c'est aussi important je pense, les prédispositions qu'a l'élève face aux mises en situation justement qu'on va leur proposer.
Alors je l'ai pas dit au début, mais j'insiste sur le fait que ce qu'on présente ici, c'est un dispositif. Par contre, on présente pas ça comme un modèle, hein, et vous n'hésitez pas à réagir. Et on est en tous les cas très intéressé par les réactions que vous pourrez avoir par rapport à ce dispositif. Donc une phase d'information, donc dans ces mini-stages, une phase d'information sur la filière. Deuxièmement, une phase de mise en situation. Alors, premièrement, dans l'atelier. Alors, il faut savoir que l'établissement est un établissement un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle une école de production. C'est-à-dire que les élèves, dans le cadre des activités d'atelier, travaillent pour des clients, hein, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Ça veut dire que l'atelier est très proche d'un vrai atelier, donc d'entreprise. C'est pas simplement un laboratoire. C'est un vrai atelier avec des vraies machines, j'allais dire, à commande numérique ou autre. Et donc,
et des moniteurs aussi, des moniteurs d'atelier qui encadrent ces jeunes.
Effectivement, on a un personnel de moniteurs d'atelier qui encadre les jeunes et qui aide donc les professeurs techniques. Donc, un environnement de l'atelier qui est proche de l'entreprise, ça c'est important. Donc, sentir un petit peu les choses dans le cadre de l'atelier. Deuxièmement, des activités simples en autonomie, des activités techniques. C'est-à-dire, non seulement on donne des informations sur le métier, mais on le met en situation avec des activités techniques simples. Hein, qui permettent d'approcher le métier. Il passe combien ? Il passe
sur le volant horaire ?
Oui, une 25
entre 25 et 30 heures en fonction des emplois du temps banalisés. Voilà. Que nous avons.
Disons 25 heures. Il passe 25 heures sur le métier. Hein, donc c'est pas beaucoup. Mais on essaye de trouver effectivement, les professeurs essayent de trouver des activités qui soient suffisamment significatives et suffisamment simples. Pour permettre à l'élève donc de découvrir, d'approcher le métier. Ces activités, c'est des activités qui sont basées quand même sur la valorisation de l'élève. C'est-à-dire que même si ces activités vont être évaluées, on va pas lui dire t'es nul, t'es mauvais, t'es pas bon, etc. Tu as réussi ça, tu as réussi tel type d'activité, tu n'as pas réussi tel type d'activité, tu as pas été très à l'aise. Donc on essaye le plus possible de valoriser donc l'estime.
Et puis ensuite on ajuste en fait en fonction de justement de ce qu'on a vu tout à l'heure, les représentations. On ajuste mais les représentations je pense des métiers, des filières, mais ces représentations à lui, je suis pas bon, j'ai pas réussi à faire ça. Et on se rend compte souvent que l'élève se mésestime et que finalement on lui apporte la preuve de ses difficultés mais aussi de ses réussites. On en parlera tout à l'heure.
Les réalisations, peut peut-être les citer ? Alors, un tabouret pour l'atelier bois, un barbecue pour la chaudronnerie.
Un gradateur de lumière pour l'électrotechnique.
Et un petit étau pour l'atelier mécanique.
Voilà, donc chaque activité, chaque dispositif technique dans une filière, bon, ce sont des exercices techniques qui débouchent sur une petite réalisation. Donc un élève, même s'il veut pas faire bois-agencement, il va partir avec son tabouret pliant, etc. Donc voilà, il a réussi, il a fait quand même quelque chose. Hein, il a fait quelque chose et ça, c'est pour valoriser l'estime de soi. L'autodiagnostic de l'élève par un bilan, c'est-à-dire le fait que ces activités-là, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pour permettre à l'élève de s'évaluer dans les activités. C'est-à-dire, je suis à l'aise dans l'activité ou je suis pas à l'aise dans l'activité. J'avais une certaine image du métier. Quand je vois l'activité qu'on me propose, et ben, ça correspond peut-être pas très bien à ce que j'avais envie de faire ou que je me sentais capable de faire. Donc, la partie autodiagnostic est très importante. Et puis, bien évidemment, l'observation de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire des professeurs techniques par rapport à ces activités-là. Ismaël en parlera, je pense, tout à l'heure, mais chaque équipe pédagogique dans chaque métier, dans chaque filière professionnelle, propose des activités techniques suffisamment significatives pour permettre une certaine évaluation de l'élève. Et puis, dans cette phase de découverte de filière, selon les filières professionnelles, on essaye aussi d'accompagner les élèves de seconde professionnelle avec des élèves plus âgés, c'est-à-dire dans ce type d'activité technique, hein, où les professeurs peuvent pas être partout. On met aussi des élèves plus âgés qui aident, notamment avec tous les problèmes de sécurité qu'on a sur les machines à commande numérique. Il y a des élèves qui sont plus âgés qui aident donc les élèves de seconde professionnelle. Et en même temps, il y a dialogue, il y a échange entre les élèves.
Et je rajouterais que ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant, le professeur, peut prendre de la distance avec ce système-là et peut observer le comportement de l'élève. Les aptitudes de l'élève. On est bien dans cette dynamique d'observation.
Alors, dans la découverte de la filière, en plus des activités purement techniques, purement pratiques, il y a des tests complémentaires en fonction des filières, qui peuvent être des exercices de réflexion logique, qui peuvent être des tests de vision dans l'espace, qui peuvent être, pour le domaine de l'agencement, par exemple, des tests artistiques, ou des bilans pour mesurer la progression de l'élève. Parce qu'on peut se poser la question, un élève qui a déjà pratiqué, est-ce qu'il est avantagé par rapport à un autre ? Pas forcément. En tous les cas, il y a, je crois que c'est le cas de l'électrotech, il y a aussi des évaluations qui permettent de voir si entre le début, c'est-à-dire le test initial et le test final, il y a eu progression de l'élève. Tu vas en parler tout à l'heure.
Oui, je vais en parler tout à l'heure.
Voilà. Donc ça, c'est la phase, j'allais dire, donc technique, et la phase d'accompagnement. Alors, il y a beaucoup d'éléments sur l'accompagnement. Chaque élève de l'établissement est reçu en entretien au moment de la candidature. Donc, on prend le temps d'expliquer comment fonctionne cette période d'observation et en quoi elle constitue une aide pour le choix des métiers. Chaque élève de seconde professionnelle a un professeur référent. Donc, Claire en parlera dans un instant. Il y a une information aux parents qui se fait lors de l'entretien de candidature. Et puis, le premier vendredi de la rentrée, il y a une réunion de tous les parents. Où on va expliquer aux parents, donc, ce qu'est ce dispositif. On l'explique déjà dans les documents présentant le lycée. Et où on invite aussi les parents dans les ateliers pour leur montrer un petit peu rapidement ce qu'on va faire. À la fin de chaque semaine, il y a un bilan avec le professeur référent. Ensuite, à la fin de la période, il y a ce qu'on appelle une fiche de vœux, c'est-à-dire que l'élève, une fois qu'il a découvert toutes ses activités, donc fait une fiche de vœux où il indique les métiers, les filières qu'il voudrait choisir. Il y a une commission d'admission qui se réunit, qui comprend tous les professeurs techniques et tous les professeurs référents. Les professeurs référents sont des professeurs d'enseignement général. Donc tous les professeurs de seconde professionnelle, j'allais dire, sont sur le terrain. Les profs techniques pour les activités donc de technique et les professeurs d'enseignement général en tant que professeurs référents.
C'est pour éviter d'être jugé parti à la fois. Voilà.
Il y a un carnet de suivi donc de la période, un carnet de bord qu'on pourra vous montrer si ça peut vous intéresser. Et puis, on travaille aussi avec un centre d'orientation scolaire, donc la possibilité pour un élève qui le souhaite ou à qui on le conseillerait de rencontrer une psychologue scolaire avant le choix définitif. Donc voilà, donc toutes ces phases d'accompagnement, c'est très important de bien sécuriser, d'autant plus qu'il peut y avoir un certain stress de l'élève en disant, je suis venu dans l'établissement et j'aimerais bien faire ça, est-ce que je vais pouvoir obtenir le métier que je souhaitais au départ. Et puis ils entrent dans un nouvel établissement, passer d'un collège à un lycée professionnel, c'est quand même aussi une mutation qui est pas forcément toujours évidente. Il y en a qui viennent à l'internat, on a un internat, donc voilà, c'est aussi très très important de les sécuriser au maximum. Alors les critères d'évaluation, j'en ai mis quelques-uns ici. Bon, on a une enquête régulière. Alors 90% des élèves en moyenne sont admis dans leur premier vœu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la fin, dans la fiche de vœux dont je vous parlais il y a un instant, on demande à l'élève de mettre plusieurs vœux. C'est-à-dire mon premier vœu, mon deuxième vœu, mon troisième vœu. Je souhaiterais en priorité être affecté dans telle filière professionnelle, ensuite éventuellement dans telle autre, puis dans telle autre. Bon, les moyennes qu'on peut faire sur les années précédentes montrent qu'on est à peu près à 90% des élèves, parfois en dessous, 90% des élèves qui sont admis dans leur premier vœu. Donc ça veut dire qu'il y en a 10% qui ne sont pas admis dans leur premier vœu. On en parlera tout à l'heure. Il y a des enquêtes qui sont faites donc à la fin de chaque période d'observation chaque année. Donc 95% des élèves ont bien ou très bien vécu la période d'observation. 30 à 40% des élèves disent avoir changé d'avis. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire entre le moment où ils ont voulu rentrer au lycée, ils ont fait acte de candidature, et puis le moment où ils ont rempli la fiche de vœux, il y a 30 ou 40% des élèves qui ont changé d'avis. C'est-à-dire je suis venu au lycée pour faire électrotech, et puis j'ai découvert la chaudronnerie, et puis j'ai envie de faire chaudronnerie. Et ça, pour nous, c'est très important. Je veux dire, c'est une raison importante de travailler ce dispositif, parce que on s'aperçoit effectivement qu'il y a des métiers qui sont pas connus ou méconnus, ou que effectivement les représentations des élèves sont pas toujours très ajustées. Dans les enquêtes aussi qu'on fait, 46% des élèves ont choisi le lycée professionnel pour la période d'observation. Alors, dispositif élargi, le fait que ce soit des groupes provisoires fait que les professeurs d'enseignement généraux ont des groupes qui changent. Ils n'ont pas toujours la même classe, ils n'ont pas toujours les mêmes élèves. Ils peuvent ne pas avoir toujours les mêmes élèves. Donc, ça implique effectivement que les professeurs d'enseignement général travaillent en commun et une progression commune pendant cette période de 4 semaines. Donc ça, c'est un effet, j'allais dire, c'est un effet de la période d'observation qui est intéressant. On propose aussi, donc Nicole pourra en parler, des modules de méthodologie des apprentissages pour les élèves qui rentrent donc au lycée professionnel, donc ils peuvent avoir des difficultés. Donc il y a des modules, tu peux en dire deux mots, Nicole ?
Oui, alors j'en dis deux mots.
Trois mots, quatre mots.
Bon, c'est bon. oui, donc les élèves passent tous par un module de 2 heures d'initiation à la méthodologie des apprentissages, donc dans lequel on essaye de vérifier, de leur faire vérifier s'ils repèrent la différence entre la perception et l'évocation, si ils savent apprendre, s'ils connaissent leur profil. Voilà, donc c'est une base qui est assez ludique, qui est faite à partir de jeux. Je peux communiquer à ceux qui le souhaitent le diaporama qui sert de support, et puis le fascicule dont j'ai donné tout à l'heure un exemplaire à Monsieur Javot. Donc on peut le faire circuler aussi, le fascicule qui leur permet de garder une trace. Ensuite, les élèves savent que il s'offre à eux deux possibilités. Une possibilité de redemander en aide personnalisée des séances supplémentaires sur un thème ou l'autre, sur l'attention, sur l'apprentissage, sur l'organisation, sur telle ou telle partie. Et puis également, cela nous permet de repérer les élèves en difficulté d'apprentissage, avérés ou non, élèves dyslexiques en particulier, mais pas seulement. Et donc on en profite pour leur présenter cet atelier méthodologique qui sera hebdomadaire et qui leur permettra d'avoir une heure par semaine sur l'année scolaire un soutien méthodologique spécifique à leurs difficultés.
Donc sinon il y a une journée d'intégration, c'est-à-dire que le premier jour où les élèves arrivent dans l'école, bon, ils ont une journée d'accueil, hein, où on prend le temps de leur faire découvrir l'école. L'internat aussi joue un rôle important, on a un internat qui est relativement important. Donc chaque élève interne est accueilli par des élèves, par des aînés internes. On a aussi une fête d'accueil qui a lieu généralement en fin de période d'observation, où donc les élèves qui sont déjà dans l'établissement accueillent les plus jeunes à travers certaines activités ludiques.
Vous allez dire deux mots des carrés
le soir. Je vous en prie.
Non, simplement.
Donc on a aussi une organisation de l'internat où les élèves ont des temps par équipe, où ils se retrouvent donc de niveaux différents, par exemple à la même table le soir. Et donc c'est aussi un facteur d'intégration des jeunes élèves par les plus anciens. Et puis on a systématiquement, là depuis quelques années, on faisait ça très tôt dans l'année, puis pour des raisons climatiques, on le fait au mois de mai. Il y a un séjour, donc il y a un temps d'intégration et qui a lieu donc pour les secondes professionnelles, mais au mois de mai, où donc toute la filière se retrouve ensemble 4 jours en Ardèche avec des activités de pleine nature. Donc c'est un stage qui s'appelle Environnement et technologie qui contribue à l'intégration et à la formation des groupes. Le dispositif a évidemment ses limites. On essaye quand même de faire une mise à jour régulière donc du dispositif, hein, c'est-à-dire de retravailler les activités lorsque les programmes changent. Bon, puis lorsqu'il y a de nouvelles filières comme par exemple la filière SEN, système électronique numérique, qu'on a intégré. Donc on essaye de faire des mises à jour régulières. Il y a quand même une question qui est une question complexe, qui est l'évaluation des aptitudes ou des compétences techniques. Comment la faire? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en électrotech par rapport à la productique mécanique ou par rapport au système électronique numérique? C'est pas toujours très très évident. Il y a aussi d'autres aspects qui sont la place des éléments affectifs, hein, et ça qu'on peut pas gommer, qu'on le veuille ou non. Hein, pour citer des exemples, je veux faire bois et agencement parce que ça sent bon le bois. Tous ces éléments affectifs entrent évidemment en ligne de compte dans le choix des élèves. Et on peut pas faire une orientation qui soit purement rationnelle, parce qu'on sait bien que nous aussi, quand on a choisi un métier, il y a plein d'éléments affectifs qui rentrent en ligne de compte. Donc le rêve d'une rationalisation pure du dispositif est sans doute complètement illusoire et pas satisfaisant en tous les cas. Ismaël, tu veux dire ?
Ce qui est important aussi, c'est l'influence des uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des groupes, et ça on avait... une des difficultés, on peut se retrouver dans des groupes où, par exemple... Par rapport à cet aspect affectif, les uns influencent sur les autres, c'est-à-dire, je me retrouve avec 3-4 élèves qui ont vraiment envie de faire du bois, ils sont dans un groupe de 14, et ils dynamisent le groupe à aller plus, et ils tirent en fait ces élèves-là. Voilà, un effet de contagion qui fait que, ils sont très influençables à. Ils sortent de 3e, donc ils sont très influençables.
Voilà. D'où l'importance du professeur référent.
Voilà. Sans parler de la tête du prof aussi, qui peut jouer comme élément affectif. C'est-à-dire, je ne veux pas dans telle filière parce que le prof m'apparaît trop méchant. ou je vais aller dans telle filière parce que le prof m'apparaît plus gentil. Donc, donc tous ces éléments affectifs, on les connaît. Et ils rentrent en ligne de compte. Et voilà, on ne va pas rêver d'une orientation purement technique et purement rationnelle. Et puis il y a une question qui est souvent posée, c'est le problème de l'équilibre des sections. Donc là, sur l'équilibre des sections, j'avoue que c'est compliqué. On peut pas évidemment. On a des classes qui sont déterminées à l'avance, et donc alors on a une petite marge de manœuvre. Les sections, vous voyez, 90% de premier choix, donc de premier vœu, hein, c'est montre que finalement il y a un équilibre qui se fait à peu près. Alors c'est vrai qu'il y a des contextes où tel ou tel métier peut être moins choisi, et où le niveau d'exigence pour prendre un élève va être plus élevé que par rapport à d'autres. Actuellement, on a un peu de difficulté, on va dire ça comme ça, sur la productique mécanique, qui est un métier qui souffre beaucoup, alors qu'il y a des métiers comme le bois agencement où il y a une forte demande. Par contre, on a des métiers qui sont méconnus, comme la chaudronnerie et la métallerie, qui, après la période d'observation, recrutent beaucoup d'élèves. Hein, si on recrutait que les élèves qui, au moment de la candidature, veulent faire de la chaudronnerie et de la métallerie, on aurait 10 élèves, pas plus. À la fin de la période d'observation, on en a 45. Donc ce sont des éléments qui nous poussent à travailler dans ce sens-là, parce que vraiment il y a des méconnaissances de métier. Mais bon, c'est pas magique, et il y a parfois des équilibres un petit peu difficiles. Donc simplement pour dire que on continue à travailler, et on parlait du raccrochage tout à l'heure d'une manière plus générale. Donc on participe avec d'autres établissements, l'établissement Lamache, on participe donc à un projet. Enfin, on est en train de déposer un projet de raccrochage scolaire dans le cadre du plan régional de raccrochage scolaire, avec d'autres établissements professionnels, les missions locales. Hein, l'idée étant de proposer un accueil pour les élèves qui ont décroché et qui veulent raccrocher, un lieu d'accueil qui serait dans le 6e arrondissement de Lyon, et puis que les lycées professionnels proposent des bancs d'essai pour les élèves, pour ces élèves qui, qui, qui sont dans une dynamique de raccrochage pour découvrir effectivement les métiers sous forme de mini-stages dans les ateliers des établissements. Il y a également un dossier qui a été déposé, Nicole, donc un atelier de remédiation pour les élèves présentant des troubles d'apprentissage.
Oui, donc on s'est formé au CNRS de Grenoble en psychologie cognitive. On est un petit groupe d'enseignants du lycée et nous sommes en train donc de monter cet atelier qui pour l'instant est ponctuel et qui l'an prochain sera hebdomadaire. Avec plusieurs activités, certaines avec des logiciels de remédiation qui ont été faits par des docteurs en psychologie cognitive, qui sont des outils professionnels mais ludiques, et puis un travail, j'allais dire, à géométrie variable en fonction des besoins des élèves, soit en binôme, soit seul, soit en entretien individuel avec les animateurs de cet atelier, soit en sous-groupe de besoins, et soit individuellement sur les logiciels. Donc voilà, on est en train de mettre sur pied quelque chose de plus structuré que ça ne l'est cette année.
Donc on va passer au rôle du professeur référent. Donc Claire va, professeur référent, donc va vous exposer ce rôle.
Donc moi je suis prof de maths et de physique. Mais le rôle du professeur référent, finalement, n'a rien à voir avec mon enseignement que je peux avoir dans les classes. On a dit tout à l'heure que on a 6 classes de 28, donc il faut 12 profs référents, puisque chaque prof référent va suivre 14 élèves pendant toute la période d'observation. Donc ça peut être, on a dit, des profs d'enseignement général, mais ça peut être aussi d'autres personnes, puisque ça n'a aucun lien avec l'enseignement. C'est un rôle qui est très important, on en a parlé déjà un tout petit peu parce que par rapport aux éléments affectifs, hein. Et on intervient donc pendant les 3 phases, avant, pendant et après la période d'observation. Alors quel va être le rôle avant la période d'observation? Ben, mon rôle, ça va être tout d'abord l'accueil des élèves. Donc l'élève arrive au sein du lycée, il est regroupé dans la salle d'accueil et chaque professeur référent vient chercher ses 14 élèves pour lequel il va être référent pendant donc les 5 semaines. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette première journée? On leur fait visiter l'établissement, on leur montre tous les ateliers, on leur montre tous les lieux importants où se passe la vie de l'établissement. Et on finit cette journée par un premier entretien individuel qui est très important, qui va me permettre d'avoir un premier contact. On va demander à l'élève pourquoi tu es venu au lycée Lamache, de quel collège tu viens, comment ça s'est passé la période de collège, pour quelle section tu es venu ici, qu'est-ce qui t'intéresse, pourquoi, etc., etc. Et moi, ça me permet après d'avoir une bonne vision de l'élève pour le suivre pendant les 4 semaines. Pendant la période d'observation, on va se revoir en fait tous les vendredis après-midi pour faire un bilan. Alors, l'élève, je l'ai pas forcément vu, puisque, comme on disait, hein, les groupes tournent. Donc, je suis pas forcément prof de maths sciences dans la classe où il est actuellement, puisque toutes les semaines, il change finalement d'emploi du temps et de section. Donc, je le vois tous les vendredis après-midi et on va évaluer la motivation de l'élève pour chaque atelier à chaud. Hein, c'est ça qui est important pour essayer justement de gommer un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, que c'est ces phénomènes de groupe où il y en a 2 qui veulent faire agencement, du coup ils vont essayer de contaminer tous les autres. Donc nous on va être là le vendredi après-midi pour vraiment faire le bilan, savoir si ça lui a plu, si ça lui a pas plu. Qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a pas plu, et d'avoir, on a un tableau, on a une grille précise sur les éléments, et on va permettre d'évaluer vraiment pour l'atelier qu'il a vécu pendant la semaine, d'être sûr si c'est intéressant ou pas, si on le sent motivé ou pas. Et puis il y a un deuxième volet, c'est faire le point sur la semaine en termes d'intégration. Alors moi par exemple, je fais aussi très attention aux élèves qui sont en internat, parce qu'on a des élèves donc qui viennent de collège, qui sont jeunes, qui ont souvent jamais quitté le giron familial, et qui se retrouvent donc à l'internat et ils voient plus papa, maman du lundi au vendredi soir. Et donc on fait attention de voir si tout se passe bien. Pour les externes également, pour voir s'il n'y a pas de soucis au niveau des emplois du temps, des horaires, parce qu'ils commencent à 7h45 le matin. Et on vérifie aussi que le règlement a bien été respecté au niveau des sanctions, des retards, etc. Pour permettre tout de suite de cerner les élèves qui pourraient avoir des problèmes et essayer de tout de suite les remettre dans la bonne voie. Et puis la période qui est aussi très importante, c'est après la période d'observation. Donc une fois qu'ils ont fait leurs 4 semaines, qu'ils ont visité les 4 filières, on va faire un dernier entretien et on va faire un bilan. Donc cette fois, c'est plus du tout à chaud, c'est vraiment avec du recul. On demande aux élèves pendant le week-end de vraiment réfléchir aux choix qu'ils vont mettre, quelle est la première filière qu'ils vont mettre dans leur fiche de vœux, d'essayer aussi de justifier pourquoi celle-ci, est-ce qu'ils ont changé d'avis, s'ils ont changé d'avis, pourquoi. Et on va donc, ils vont établir le lendemain leur fiche de vœux où ils auront mis donc les premiers choix, je vais faire agencement, deuxième choix, je vais faire électrotech, etc. Une fois qu'ils ont rempli leur fiche de vœux, on synthétise tout ça et on fait donc la réunion d'affectation dont vous avez déjà parlé, où il y a tous les professeurs techniques, tous les professeurs référents. Et on aborde chaque cas individuel. Et puis on essaye de faire l'adéquation entre le vœu de l'élève, qui est représenté par le professeur référent. Donc moi je suis là pour expliquer pourquoi est-ce qu'il veut vraiment faire agencement en premier choix. Est-ce que j'ai vraiment senti une motivation pour le métier? Ou est-ce que c'est simplement parce que le bois ça sent bon? Et les professeurs techniques qui auront eux testé leurs aptitudes. Est-ce qu'ils le sentent vraiment apte à faire agencement? Ou peut-être plutôt menuisier plutôt qu'agenceur? Qu'est-ce qui serait plus adapté pour lui? Est-ce que c'est vraiment le bon choix de le mettre en agencement? Est-ce qu'on n'aurait pas détecté plus des aptitudes dans une autre filière, par exemple en chaudronnerie, où là on s'aperçoit qu'il a peut-être plus d'aptitudes, il aurait peut-être plus de réussite dans cette filière-là? Et on essaie donc, du coup, nous, de faire une adéquation entre les vœux et les aptitudes qu'on aurait en fait repérées chez les élèves. Voilà. Donc après, maintenant, ça va être donc Ismaël qui va présenter le rôle du professeur technique, puisque c'est lui qui va justement détecter les aptitudes. Et
Alors, quel est mon rôle dans le fonctionnement de l'observation? Déjà, moi, je me situe en tant que professeur d'enseignement en électrotechnique. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que nous faisons. Donc, la première des choses qu'on doit avoir à l'esprit par rapport au professeur d'enseignement technique, c'est ce rôle de hauteur, c'est-à-dire que on est vraiment là pour faire de l'observation et essayer d'analyser, en testant l'élève, d'analyser les aptitudes ou les prédispositions qu'a l'élève envers le corps de métier. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par l'organisation de la semaine, ensuite les activités techniques professionnelles, puis la phase d'évaluation et un bilan avec l'élève en entretien. Alors, organisation de la semaine balisée. Nous avons un volant de 25 à 30 heures environ que nous devons gérer. Donc, voilà. Des groupes de 14 élèves par professeur. Et on fait en sorte, lorsque nous organisons les emplois du temps en amont, on fait en sorte que le professeur, ou qu'il y ait un professeur qui suive le long de la formation au métier, les mêmes élèves, de façon à ce qu'il y ait le meilleur retour possible. Ensuite, il y a une préparation en amont du matériel, parce que les élèves repartent, on l'a dit tout à l'heure, soit avec un barbecue, nous c'est un gradateur de lumière, donc on doit quand même préparer en amont tout le matériel technique. Ensuite, il y a la réservation des salles au sein de l'établissement, parce qu'il nous faut aussi des salles pour pouvoir justement proposer les meilleurs endroits, de façon à pouvoir faire nos entretiens, de façon à pouvoir proposer nos cours. Voilà. Ensuite, les activités techniques professionnelles. Alors, un cours de technologie en rapport, et ça c'est très important, parce que c'est une contrainte, sachant qu'on a 5 semaines, que c'est une formation en bac pro, c'est une formation de 3 ans, donc on doit se coller au maximum au référentiel. Dans l'idée que ce que nous apprenons à l'élève puisse resservir, aussi, s'il ne vient pas, par exemple, en électrotechnique, puisse resservir en structure métallique, en agencement. Donc, on a orienté notre apprentissage autour, par exemple, par rapport aux cours technologiques, à la sensibilisation des risques électriques. Alors, des maquettes de montage évolutifs où l'élève travaille en autonomie sur des matériels didactisés. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait en sorte que l'élève, en fonction des documents, alors je les ai là à disposition aussi, les documents, hein, si vous voulez les voir par la suite. Donc on fait en sorte que ces maquettes soient évolutives, c'est-à-dire que l'élève, en fonction du document qu'on lui apporte, puisse, en faisant des allers-retours sur le document, donc la phase matérielle et la phase papier, puisse faire des liens. Et il avance vraiment, vraiment seul. Et tant qu'il n'a pas réussi le montage, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Donc c'est un peu faire c'est de l'essai-erreur en fait. Et on essaie de faire en sorte que l'élève fasse sa métacognition en fait quelque part. Des réalisations pratiques où ils implantent, où ils soudent, et ils raccordent. De la découverte de systèmes où là, dans la découverte de systèmes, de façon à leur présenter au mieux la filière et les différents métiers qui pourront réaliser la climatisation, l'éclairagisme, le chauffagisme, peu importe. On leur met en fonctionnement ces systèmes-là de façon à ce qu'ils les découvrent et qu'ils se rendent compte un petit peu de toutes les possibilités, toutes les possibilités du métier. Alors, l'utilisation de logiciels informatiques, puisqu'on rentre de plus en plus, nous, en électrotechnique, dans ce qui est communicant, mais il faut savoir qu'en mécanique, en structure métallique et en agencement aussi, on se sert de logiciels pour réaliser des plans. Voilà. Alors, les évaluations. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne donne aucune note et aucune correction n'est immédiate. Pourquoi ce choix ? Ce choix qui a été harmonisé par rapport à toutes les filières. De façon à ce qu'on n'influence pas, l'élève. Il est très difficile pour un jeune sortant de 3e de le décrocher des résultats, des notes. C'est-à-dire, j'ai pas de notes, pourquoi ? Comment ça se fait ? Et on essaie de leur expliquer que nous, on n'attend pas ça. On attend plutôt une réussite dans la pratique. Et on essaie plutôt de juger sa réussite dans la pratique. Alors à la fin aussi, une évaluation sommative sur les cours de technologie. C'est-à-dire que pendant aussi cette période banalisée, on a un temps où on a donné le cours. Et on essaie d'analyser, on a donné un cours, on essaie d'analyser les aptitudes de l'élève à aussi enregistrer l'information ou les informations qu'on lui donne. Puis, par la suite, une évaluation de la motivation de l'élève par rapport au retour de toute l'équipe pédagogique technique. Alors, on se prend un temps aussi où on se réunit entre l'équipe pédagogique technique, où on discute un petit peu de la motivation de l'élève. Alors, lui, tu l'as senti comment ? Est-ce qu'il a posé des questions ? Est-ce qu'il a été intéressé au métier ? Donc, il y a deux évaluations. L'évaluation, je dirais, technique, et puis l'évaluation motivation. Ce paramètre-là aussi est important par rapport à nos critères. Alors, évaluation des compétences techniques par rapport à une grille préétablie. Alors, il faut savoir, là aussi j'ai des grilles, où on ne met pas de notation directe sur les copies de l'élève, mais on a des annotations sur un document papier que le professeur garde. Et puis voilà. Et puis qu'on remplit par informatique. Voilà. Et on aime bien aussi que l'élève, envers l'activité proposée, puisse s'autocritiquer, se juger. Au final, on a un bilan de l'élève avec le professeur qui a le plus suivi les élèves en fonction de l'emploi du temps qui est banalisé. Un temps de réflexion de l'élève par un entretien individualisé court en fin de semaine. Alors, faut savoir que sur ce volant horaire, on a 25-30 heures et que les activités techniques se terminent le jeudi, de façon à ce que le vendredi, on puisse apporter une note qui va se chiffrer ça va se chiffrer de 1 à 4, il me semble.
On en parle tout.
Ouais, on en parle après.
C'est la diapo d'après.
Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Possibilité d'apporter des remédiations sur les capacités de l'élève. Justement, par rapport à cette remédiation, on apporte toujours ce regard que l'élève a sur l'activité qu'il a eue. En fait, on essaie de remédier à ce regard qu'a eu l'élève sur le métier et puis aussi ses représentations. Alors, prise en considération des obstacles cognitifs de l'élève, c'est-à-dire que nous, par exemple, en électrotechnique, on a besoin de cette capacité de vision dans l'espace. Et on essaie de juger si l'élève a une marge de progression par rapport à cette aptitude qu'on lui demande. Voilà. Ensuite, voilà, le bilan de l'élève où on a un entretien final avec les résultats en fin de période, sur demande. Alors, cet entretien final se fait à la fin des 4 semaines. C'est soit à la demande de l'élève, soit à la demande du professeur. Voir un petit peu, à ce moment-là, on lui donne vraiment ces documents qui sont annotés. Et ensuite, à partir de là, on a notre résultat en lettres et en chiffres. Les lettres vont de A jusqu'à D, me semble-t-il.
Oui.
Ça, c'est plus pour... En rapport aux aptitudes techniques. Et la motivation, c'est chiffré de 1 à 4, très motivé, et puis 4, pas du tout motivé, par la filière.
À 4, c'est la meilleure note, mais il faut savoir que cette note n'est pas communiquée à l'élève. C'est une note interne entre le professeur technique, le professeur référent et la commission d'affectation, parce que ça nous permet, alors par exemple, A, c'est-à-dire qu'il est très bon en technique, et 4, ça veut dire qu'il est très motivé. Donc c'est la meilleure note que peut avoir un élève. Moi, j'ai connaissance de ça en tant que professeur référent. Donc ça me permet, sans communiquer la note, de discuter avec l'élève, de lui dire « Est-ce que tu as bien réussi ton stage en électrotech ? Est-ce que tu penses que tu as bien réussi ?» Il me le dit par rapport à sa vision à lui. Et moi, j'ai aussi le résultat du professeur technique qui me permet de voir si effectivement il a su s'évaluer ou pas du tout. Ça me permet aussi, généralement, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'ils se rendent vraiment compte s'ils ont réussi ou ils ont raté leur stage. Il y a des fois où, effectivement, on est obligé de leur dire « Peut-être que ta vision est un peu fausse, quoi. Il faudrait peut-être revoir. Réfléchis bien. » En tout cas, ça nous permet de lui dire « Réfléchis bien. »
Ça permet vraiment d'ajuster. Sachant que, aussi, je n'en ai pas parlé, c'est que par rapport à tout ce que nous proposons, ça ne va pas très, très, très loin au niveau taxonomique. Et on essaye toujours de faire en sorte que l'élève sache à la fin de quoi on parle. Voilà, pour qu'ils se donnent de bonnes représentations, ou les vraies représentations dont M. Jabot a parlé depuis, au début de...
Bonjour, donc merci de votre présentation. Moi, j'exerce aussi dans le 8e en lycée professionnel donc public, au LP du premier film.
Ah, on est voisins, là.
On est voisins. On n'est pas concurrents sur les filières.
Non, du tout.
Je le dis. Et pour ceux qui ne sont pas de l'Académie de Lyon, nous sommes la Rolls des LP de l'Académie de Lyon. Non, je rigole. Mais en termes de transférabilité, des exemples que je viens d'entendre, moi, j'en reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire l'affectation des élèves en lycée professionnel. Est-ce que vous échappez à PAM AFELNET ?
Ah oui, c'est clair. Ouais.
On échappe.
Donc,
on échappe.
Êtes-vous sous contrat ?
Oui, bien sûr.
Ah, oui.
C'est là que ça m'intéresse. Un LP sous contrat qui échappe à AFELNET, comprenez bien, pour le public.
Actuellement, mais je sais bien.
Bien sûr.
Actuellement, on est par exemple dans la procédure APB, donc post-bac, la procédure post-troisième, on n'est pas dedans. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on n'est pas dedans, c'est tout.
Ne demandez surtout pas à y être, si vous voulez mon avis.
Je sais pas, moi, je...
Alors, normalement, on était la dernière académie à passer à PAM AFELNET, donc j'imagine que tous les collègues connaissent PAM AFELNET. Hein. L'Académie de Lyon, la dernière à avoir subi ce dispositif d'intégration, d'affectation des élèves de fin de troisième.
Le logiciel d'affectation des élèves de troisième. Ceci étant, voilà, on est...
Dans l'enseignement public.
Il n'y a pas de blocage de notre part.
Ils n'ont pas de marge de manœuvre.
Non, aucune.
Bonjour, moi je suis enseignant en enseignement général au lycée André Cuzin, là, à Caluire, donc aussi en lycée pro. On se posait la question, vous annoncez 25 heures par semaine de travail en atelier pendant...
Il est un peu...
À peu près, hein.
Non,
il reste quoi pour l'enseignement général directement... Parce que c'est sur 4 jours apparemment, le vendredi après-midi.
On est à...
Quand est-ce que se fait l'enseignement général ?
Non, mais parce que nous on est un peu plus lourd en enseignement, enfin les semaines ne font pas 30 heures chez nous.
Un peu plus. On n'est pas à 30 là, Ismaël. Parce que le nombre d'heures, c'est 18 en ensemble professionnel, plus les. Alors, on est une école de production, il y a quelques heures qui sont des heures hors contrat, qui sont payées par l'établissement pour permettre cette production. Donc, ils ont un peu plus d'heures qu'ailleurs. Et puis, bon, tous les temps d'accompagnement personnalisé sont banalisés pour ça, enfin, etc. Donc, on limite vraiment, on prend toutes les heures d'enseignement professionnel, plus les autres heures, pour avoir le maximum de temps pour faire ce travail-là.
Alors, j'ai d'autres questions, j'en profite. Hein. Ça représente quoi en plus sur le temps de travail des enseignants, tout ce dispositif-là ? Est-ce que je vous pose toutes les questions d'un coup ou...
Bah, il travaille jour et nuit, quoi. C'est...
Ouais. Non, sincèrement, c'est un gros volume, c'est un gros travail. C'est un gros investissement, parce qu'il y a un travail en amont, il y a un travail pendant et il y a un travail après. Et c'est vrai que rien que pour organiser les emplois du temps, on passe une demi-journée. On passera facilement une demi-journée. Ensuite, la préparation du matériel. Donc c'est un peu avant qu'on parle. Maintenant, nos documents sont... Enfin, par contre, on travaille tout le temps, on essaie de faire en sorte de faire évoluer tout le temps nos documents par rapport aussi aux demandes. Donc voilà, l'emploi du temps, ça prend déjà une demi-journée.
Une fois que la période d'observation est mise en place, on a subi de gros modifications parce qu'on a repris des bacs pro. On a maintenant 7 bacs pro. Avant, on avait 4 BEP. Donc notamment en électrotech, il a fallu qu'il prévoit une formation sur la filière électrotechnique, donc avec le SEN et l'ELEC. Ouais. Par exemple, mes collègues aussi en bois ont subi aussi cette année une grosse modification puisqu'ils ont du TMA et de l'AEA. Donc il faut faire des tests qui permettent de savoir est-ce qu'il a plus le profil agenceur ou plus le profil menuisier. Donc ça leur a demandé au départ un gros investissement. Mais vu qu'elle dure depuis 72, c'est-à-dire que pendant des années et des années, ça roulait. Enfin, je veux dire, une fois que le travail est fait, après, ça roule.
En même temps, sans entrer dans une logique de concurrence des équipes les unes par rapport aux autres, il y a aussi un challenge. Hein. C'est-à-dire qu'il faut effectivement faire connaître le mieux possible sa formation.
Pour recruter.
Hein. Alors, je dis sans entrer dans une logique de concurrence effrénée où chaque équipe... Ouais, il y a un petit peu de ça aussi. Hein. Il y a un côté challenge, effectivement, des équipes pour faire venir les jeunes. Quoi.
Et pour l'enseignement général, ce sont des heures d'AP.
Alors pour répondre
donc,
à un gros travail,
toutes mes entretiens, ce sont des heures d'AP.
Et pour répondre à un gros travail, un grand travail, un grand volume d'heures de préparation en amont. Une fois que c'est fait, on est plutôt tranquille, ça roule. Et puis, il faut se prévoir toujours de façon à ce qu'on fasse les meilleures analyses possibles, un temps pour la remédiation. Donc ça prend un peu de temps. Enfin, pas...
En tous les cas, c'est vrai que c'est assez lourd, oui, pour les équipes. Hein, ça. Alors c'est un choix d'établissement que les équipes portent, hein, que tout le monde porte. Hein. Je ne crois pas que dans l'établissement, vous me direz...
Moi, je pense qu'on y gagne.
Je peux sortir éventuellement.
On y gagne forcément.
Mais je crois qu'on est, on est quand même gagnant. Donc l'effort est...
Parce que les élèves sont orientés là où ils veulent et là où on sait qu'ils peuvent réussir.
Et puis je pense que le directeur des études attribue plutôt aux classes de seconde professionnelle les professeurs qui sont partie prenante, qui voient l'intérêt du dispositif. Il y a aussi peut-être...
Ça joue aussi.
Ça joue.
J'aurais une dernière question sur est-ce que vous avez réussi à quantifier ou à chiffrer les bénéfices de ce dispositif-là en termes de décrochage, en termes de réorientation, en termes de résultats aux examens aussi.
Alors, décrochage, on ne peut pas dire qu'on exclut du décrochage. Hein. Je crois qu'il y a une fragilité maintenant des élèves de seconde. Tout à l'heure, je voyais le chiffre de 15 à 20%. Dieu merci, on n'est pas à ce chiffre-là. Hein, mais on peut avoir effectivement... alors il y a différents facteurs. Il y a peut-être du côté des familles et des élèves un aspect plus consommateur et clientéliste, en disant si j'ai pas mon métier, je suis pas content et je vais partir. On a très peu d'élèves qui partent en fin de période d'observation. C'est arrivé ponctuellement que des élèves disent je voulais faire électrotech, vous m'avez donné chaudronnerie, je suis pas content, je m'en vais. On a très très peu. Par contre, effectivement, dans des secteurs où on a un gros travail à faire, comme par exemple la productique mécanique, où là, il y a un vrai travail à faire pour mieux valoriser cette filière, on a une petite déperdition, effectivement, d'élèves sur le technicien d'usinage. Alors, le chiffre, je l'ai pas, mais on doit être entre 3 et 5% de pertes en seconde professionnelle. Alors, on avait un autre critère qui était quand même intéressant, mais qui n'est plus valable, c'était les 4 ans dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, on avait, les élèves faisaient 2 ans de BEP, ensuite basculaient systématiquement sur la première adaptation. Les derniers temps, parce qu'il y a eu une concurrence des bacs pro qui se sont beaucoup développés, mais les derniers temps, on était aux 2/3 d'élèves qui passaient en première adaptation. Hein, on a été entre 60 et 80, 90% d'élèves qui passaient de la terminale BEP à la première adaptation. Donc ça veut dire que bon, et voilà, c'était un critère. Maintenant, ce critère n'est plus valable. Et bon, il faudra voir lorsque les bacs pro seront vraiment mis en place et puis les bacs techno, comment ça se passe. Alors dans l'établissement, on a aussi une politique qu'on a voulu développer, c'est la politique des passerelles. C'est-à-dire des élèves qui passent de seconde pro à première STI. On en a eu 10 cette année. des élèves qui passent de première pro à la première STI, des élèves qui passent de seconde générale et technologique à la première pro. Donc on essaye de développer cette politique de passerelle parce que l'éducation nationale a voulu différencier, nous l'estimons de manière un peu outrancière, le bac pro du bac techno. Dans les nouveaux bacs techno, il n'y a plus d'activité d'atelier, plus du tout. Donc il y a une séparation qui est extrêmement nette et à notre avis trop nette. Donc on a deux filières qui sont maintenant parallèles dans l'établissement. Et on veut surtout pas qu'un élève soit enfermé dans une filière ou attendre simplement la terminale pro pour espérer passer en BTS, mais qu'en cours de parcours, il puisse éventuellement changer. Donc là, il y a une politique d'accompagnement par les équipes qui demande aussi du travail parce que c'est pas très évident ça.
Puis un paramètre affectif, moi je le sens en ressenti. Les élèves sont bien dans leur métier.
Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire. C'est pas magique. Hein, c'est pas la mâche, c'est pas le paradis encore.
Hein. Non, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps. Les élèves, ils nous disent qu'ils sont contents. Enfin, je veux dire, ils sont contents, ils font quelque chose qui leur plaise. Ils sont absolument investis dans leur métier. Enfin, on le ressent, ça. Hein.
Au niveau du métier, ça se passe bien. Au niveau de l'intégration, ça se passe bien. Il reste la problématique de l'apprentissage du savoir scolaire. Et là, effectivement, on a encore... comme tous les établissements, on a du travail à faire pour réconcilier les élèves avec l'enseignement général. Moi, ça, c'est le...
Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'investissement ? Moi, je dirais oui. En tant que professeur technique...
Ouf, merci.
Moi, je dis oui. Voilà. Non, mais simplement, hein, oui, ça vaut le coup. Oui, c'est intéressant pour les élèves par rapport au retour qu'on a, oui.
Oui, je vais y aller. Oui, j'avais aussi une question. Moi, je ne sais pas si c'est un oubli ou si... Bon, je suppose quand même que vous êtes en lien avec les familles. Et c'est vrai, ce qui m'a frappé, c'est que dans les entretiens et les bilans que vous faites, vous ne parlez que de l'élève.
Ouais.
À quel moment apparaissent les parents dans le choix d'orientation de leur enfant ? Et deuxième question, que faites-vous des élèves qui ne trouvent pas leur voie dans les cadres que vous proposez ? Autre question aussi... Quelle est, dans l'ensemble, les catégories socio-professionnelles du public scolaire que vous accueillez ?
Alors, première question, les parents sont associés au moment de la candidature. C'est-à-dire qu'au moment de la candidature, on leur explique bien ce qu'est la période d'observation. Mais ils ne sont pas associés au moment du choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux parents qu'est-ce que vous voulez que votre fils fasse. Donc ça, c'est un choix de l'établissement. Donc les parents sont bien informés au départ, hein, qu'on ne leur demande pas leur avis. On pense que c'est à l'élève de choisir. Alors, je pense que d'une manière générale, dans le passé, enfin dans un certain passé, parce que j'ai un certain âge, il y avait une pression des parents qui était beaucoup plus forte. À l'heure actuelle, bon, il y a très très peu de pression des parents. Il y avait une pression des parents qui pouvait être forte lorsqu'on avait des artisans qui voulaient que leur fils continue ou leur fille continue. Bon, donc les parents ne sont pas associés à la décision. Par contre, effectivement, on leur dit au départ, lorsqu'ils déposent un dossier, on leur explique ce qu'est la période d'observation. On leur pose même la question s'ils sont d'accord ou pas avec la période d'observation. Donc ça, c'est très important qu'ils soient d'accord avec la période d'observation. Et d'autre part, comme je disais tout à l'heure, on a une réunion, donc le premier vendredi soir de la rentrée, on a une réunion où on informe les parents sur ce qu'est la période d'observation et où ils vont passer, eux aussi, vont faire une période d'observation en accéléré, à raison d'une demi-heure par... dans chaque atelier, où on va leur présenter ce qu'est la période d'observation. Mais bon, on n'a pas de...
Et nous, on présente...
On n'a aucun... Il n'y a pas de gros problème avec les parents. Ouais.
En électrotechnique, par exemple, nous présentons, lors de cette réunion, aux parents, les activités que font les élèves, la réalisation pratique, les systèmes qu'ils étudient. On leur présente aussi nos ateliers. Donc il y a quand même cette rencontre avec les parents.
Alors parfois, on sent effectivement une tension entre les parents et l'élève. Mais la tension, elle est souvent dans le sens où les parents font un peu pression sur leur fils, pas sur l'établissement, mais sur leur fils pour choisir tel ou tel métier, alors que l'élève n'a pas envie forcément de faire ce métier.
Ça, ah, c'est mon rôle de prof référent. Moi, je fais bien le vendredi après-midi, quand je les vois, ils sont encore pas rentrés chez eux. Donc ils me disent vraiment, ça m'a plu ou ça m'a pas plu. Et à la fin... Quand papa et maman sont passés, quand ils ont fait leurs 4 semaines et que je vois que l'élève, il était à fond pour faire, chaudronnerie, et que tout à coup, il met en premier choix électrothèque, je lui dis, attends, excuse-moi, et pourquoi tout à coup, t'as changé d'avis comme ça? Et là, souvent, ça ressort, mes parents, ils veulent pas que je fasse chaudronnerie, ou ils veulent pas que je fasse ceci, je fasse cela.
Donc il peut y avoir des entretiens avec les parents à ce moment-là, hein, des entretiens où on essaye de... Bon... Après, on s'appuie toujours sur le choix de l'élève. La deuxième question, c'était
La deuxième question, c'était que faites-vous des élèves donc, qui n'adhèrent pas aux quatre choix possibles ? Est-ce qu'ils peuvent retourner dans le système classique parce que AFELNET, c'est trop tard. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ?
De toute façon, si effectivement, il y a un cas comme ça, ce qui est quand même très rare. Bon, les cas comme ça, ils se posent essentiellement en fin de seconde pro. Mais s'il y a un cas comme ça, bien évidemment, on va accompagner l'élève vers un autre établissement. Voilà, on laisse jamais un élève à la porte si effectivement il veut partir et il dit je suis pas d'accord. Voilà, on cherche toujours une solution. Mais c'est vraiment minime. Hein, je vous dis, des élèves qui partent en fin de période d'observation, en 20 ans, si j'en ai connu 4 ou 5, c'est pas plus.
C'est vraiment la marge.
Alors, parce que effectivement, pour nous, c'est important de bien informer les familles dès le départ. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un passage obligé. On essaye de leur expliquer que c'est pas un passage pour les empêcher de faire ce qu'ils ont envie, mais pour travailler avec eux sur l'orientation. C'est ça qui nous paraît important. Et on essaye de bien expliquer qu'une bonne orientation, il y a peut-être des conseillers d'orientation dans la salle ou des spécialistes. C'est une orientation qui équilibre bien la motivation et les compétences, ou des prédispositions, parce qu'on mesure aussi qu'un élève qui est passé dans une section très limite, il va parfois rencontrer des difficultés et être en situation parfois d'échec. Il y a un certain travail qui est fait quand même des équipes qu'il faut qu'on renouvelle et qu'on réanime, monsieur Sadki Ismail, sur le devenir des élèves, quoi. Sur 3 ans, il a eu, par exemple, A4, il a eu B, etc. Oui. Je joue pas la bataille navale, mais est-ce qu'effectivement ça se confirme qu'il est très à l'aise et, en général les études qu'on a pu faire le confirment, mais on n'est pas dans la certitude absolue, hein. C'est quand même
on a quand même une marge.
Alors certaines familles nous disent, mais comment vous faites pour juger en 4 semaines? Et puis, on a des inspecteurs qui sont venus nous voir en disant, mais vous vous rendez compte, vous prenez 4 semaines sur la formation, c'est pas normal, vous devriez commencer tout de suite. Donc, entre les deux, on essaye de naviguer au mieux. Et la troisième question, c'était...
Pour faire vite et court, catégorie socio-professionnelle des parents dans est-ce que vous avez fait des statistiques? J'imagine que oui.
Oui, on a fait des statistiques. Alors, je les ai pas sous les yeux, mais c'est vrai que, on est plutôt quand même sur des catégories moyennes. Hein. On est plutôt sur des catégories moyennes.
Très bien, merci.
On n'est pas ghettoisé. Hein.
On n'est pas ghettoisé dans un sens ni dans l'autre. Mais c'est vrai que on a le problème effectivement du privé sous contrat où effectivement les familles doivent participer. Donc effectivement, pour certaines familles, même si on présente clairement en disant on est prêt à. Ça peut être effectivement un obstacle et ça, on en a tout à fait conscience.
Des élèves boursiers quand même, hein.
On a vraiment tout.
Donc toute cette démarche, bien sûr, le travail autour de la recherche d'orientation est super intéressante. Et c'est à mon sens quelque chose qui devrait être fait systématiquement avec tous les élèves de fin de troisième qui décident de s'orienter dans la voie professionnelle. C'est ce qu'on fait par exemple avec les classes de troisième DP6, dont justement en amont, et on voit à quel point effectivement tout ce travail-là peut être positif. Maintenant, la question, c'est comment transférer toutes ces bonnes idées dans les lycées professionnels du public qui sont confrontés à l'accueil, à l'arrivée des élèves qui sont affectés et qui, après les procédures d'affectation dont on a parlé, et qui n'ont plus aucune possibilité de changer d'orientation. Donc là, c'est quand même la question, parce que nous, on accueille ces élèves-là dans la plupart des lycées professionnels.
Oui, on est content de pouvoir proposer ça. C'est vrai, hein. Non, mais c'est sûr. Parce que ça se sent vraiment au niveau du ressenti. Hein. Alors, l'élève est bien. Hein.
Juste, alors j'ai plusieurs questions. Alors, vous avez répondu en partie à une question tout à l'heure liée aux élèves sur que deviennent justement ces élèves qui n'ont pas eu leur premier choix, leur premier vœu. Est-ce qu'ils sont plutôt décrocheurs ou pas? Vous avez répondu, mais vous n'aviez pas tous les éléments pour nous, sauf pour la partie productique. Et puis, en fait, trois questions sur le prof référent, puisque le thème, c'est quand même quelle incidence sur le professeur, enfin, le travail du professeur dans le lycée. Le professeur référent est-il possède-t-il le LPC, le livret de personnel de compétences?
Je ne l'ai ni en tant que prof référent, ni en tant que prof de maths, ni en tant que... Je ne l'ai pas du tout. Le LPC n'arrive pas au lycée. Il est resté bloqué quelque part au collège, s'il a été rempli. Excusez-moi, je pense qu'il l'est, puisque c'est obligatoire.
Oui. Il est forcément rempli, c'est une obligation.
Mais la transition par informatique n'a pas été faite. Moi, je suis allée dans le logiciel. Je suis allée voir pour certains élèves, voir si le LPC était rempli. Le transfert n'est pas fait entre le collège et le lycée.
Vous pensez que donc la prise en compte de ce LPC pourrait favoriser votre...
Nous, on attend que ça, que ce LPC arrive dans le lycée professionnel. Et moi, je dirais plus en tant que déjà en tant que prof de maths, quoi.
Compétence 6.
Parce que moi, je suis censée valider les compétences qui n'ont pas été complétées au collège. Comment je peux faire si je les ai pas?
Et puis, je rajouterais, nous, en tant que professeurs techniques, ça doit être notre base. On doit savoir positionner l'élève en fonction de ses capacités, de ses résultats, etc. Enfin, surtout ses compétences, c'est ça. Et donc, c'est hyper important.
Mais on nous a dit que la liaison informatique sera faite à la rentrée prochaine.
Ça devrait être fait, oui. Alors, une autre question, justement, sur le professeur référent ou le professeur d'enseignement technique qui intervient. Est-ce que vous mettez en place des formations, vous avez mis en place des formations spécifiques, c'est-à-dire pour la prise en compte des élèves ou non? Parce que c'est pas... Il n'y a pas de choses...
C'est la formation du prof.
Voilà, du prof. C'est-à-dire comment il prend en compte l'élève, comment il évalue l'élève, même si vous faites un travail d'équipe, que vous avez les mêmes. J'ai entendu dire tout à l'heure que vous aviez mis en place une équipe dans l'établissement qui est allée suivre une formation particulière. Est-ce que les équipes sont partie prenante? Est-ce qu'il y a une demande spécifique d'un ou deux professeurs de mettre des demandes individuelles, ou est-ce qu'il y a une demande d'équipe? Comment donc, dans ce cadre-là, l'équipe de direction prend en compte cette demande?
Dans le passé, on le fait pas systématiquement, mais c'est vrai que dans le passé, avec des organismes de formation, on a travaillé, par exemple, sur le carnet de bord, on a travaillé sur la démarche d'observation. Donc on le fait pas systématiquement, on a fait cette année aussi un travail avec le centre Bergeret aussi sur les nouvelles problématiques de jeunes. Voilà ce qu'on peut dire. Après, s'il peut y avoir des demandes individuelles, en principe, toutes les demandes individuelles sont on y répond favorablement. Hein. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'on a encore à travailler sur la question difficile des compétences techniques, quoi.
Ensuite, par rapport à notre formation, il faut savoir qu'on travaille en équipe. On est à peu près, nous en électrotechnique, 6-7 professeurs à intervenir lors de la période d'observation, et qu'on met au cœur de cette période d'observation la filière. Et, la filière, pour moi, électrotechnique. Et il est vrai que c'est une question aussi d'hétérogénéité, je pense. La question aussi, c'est autour de ça. Comment je peux faire pour répondre aux besoins de chacun par une différenciation, etc. La différenciation, elle se fait par rapport à un travail en amont que nous avons réalisé par rapport à nos documents. Et on différencie par un travail en autonomie, où là, on essaie... Comme le niveau taxonomique est très faible, je donne un exemple très concret. Je lui présente deux matériels, un interrupteur et un bouton poussoir. Il doit être capable de me dire, voilà, ça, c'est un interrupteur, ça, c'est un bouton poussoir. Donc, le niveau taxonomique est faible. Effectivement, on a tout un travail à faire par rapport dans cette hétérogénéité, cette aussi diversité des parcours, et sachant que notre établissement a mis en place des passerelles, faut qu'on gère aussi ça, parce qu'il y en a des élèves bien meilleurs que d'autres par rapport à leur capacité cognitive. J'entends bien cela. Et voilà, effectivement, on a mais c'est ce qui est intéressant aussi, il y a toute cette marge de progression et cette évolution que l'établissement nous apporte, par exemple par rapport à Nicole, à son module, par exemple, c'est un des exemples. Mais...
Je dirais qu'en enseignement général aussi, la formation, tous les professeurs, enfin là, beaucoup de professeurs font des formations différentes, et il y a une mutualisation par un travail en commun à travers les équipes intradisciplinaires et interdisciplinaires. Par exemple, quand on se réunit en lettres pour faire le carnet d'évaluation du niveau de français histoire géographie, forcément, il y a une mise en commun les jeunes professeurs qui arrivent nous apportent les formations qu'ils viennent de recevoir de l'université, les anciens comme moi apportent plus leur expérience, et donc il y a une mutualisation et je dirais une co-formation à travers ce travail d'équipe.
Alors j'ai deux dernières questions justement sur ce point. Je suppose donc que le travail en équipe se fait de manière volontaire, liée au projet d'établissement. C'est-à-dire que l'ensemble des membres de l'équipe sont parties prenantes.
Oui, bien sûr. Hein,
et pas simplement deux ou trois volontaires.
On est tous acteurs. Hein, on est
tous acteurs.
Tous acteurs avec un rôle bien défini.
Donc,
en amont. C'est un travail en amont.
Voilà. Quand vous vous réunissez justement, alors vous vous réunissez sur quel temps ?
On a un temps de concertation et de réunion prévu par
qui est prévu par l'établissement. D'accord. Et quand vous avez des professeurs qui habitent loin et qui sont pas disponibles, vous faites comment ?
En stop. Non, sincèrement, ils étaient bons.
Mais dans l'emploi du temps des professeurs techniques, il y a forcément organisé par le chef d'atelier une plage de concertation. Donc moi, par exemple, en tant que prof de maths, je sais qu'à l'atelier d'ELEC, le jeudi de 13h à 14h, je peux y aller parce que tous les profs d'ELEC sont là.
C'est prévu dans notre emploi du temps et c'est rémunéré, c'est payé.
Et puis je répète que des professeurs qui ne se sentent pas vraiment envie de rentrer dans ce dispositif-là peuvent avoir un emploi du temps sur des classes de première et de terminale. Je ne veux pas parler à la place de mon directeur, mais je suppose que l'équipe de direction sent bien quels sont les professeurs qui ont envie de s'impliquer dans ce dispositif ou pas.
Non.
Oui.
Non, mais.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'il y a.
Il n'y a jamais de soucis là-dessus.
Non. C'est vrai qu'il y a un noyau. Quand même, c'est vrai qu'il y a un noyau dur qui chapote et qui organise ça. Mais vous, ce qui vous fait peur, je pense, c'est la quantité de travail, l'investissement du corps. Enfin, c'est ça. C'est la charge de travail. Effectivement, je ne vais pas vous mentir, il y a une charge de travail. Mais une fois que c'est pondu, une fois que c'est fait, une fois que c'est mis en place, après, je vous garantis que ça roule tout seul.
C'est quoi ?
C'est l'intégration de l'ensemble des professeurs sur le même.
Sur le dispositif période d'observation, il y a. Bon, sur d'autres dispositifs, on a certainement des marges de progression réelles. Sur le dispositif période d'observation, il y a aucun problème. On a la chance qu'il n'y a aucun problème depuis la création. D'ailleurs, tout le monde adhère et rentre dans le dispositif. Et ça, c'est une chance. Hein, c'est une chance parce que.
Bonjour, Frédéric Lachal du lycée Jeanne de France à Lyon. Est-ce qu'une des limites en fait de ces 5 semaines d'orientation ou d'observation, c'est pas le déséquilibre qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande au niveau des filières ? Et comment vous gérez les frustrations quand vous avez le double de demandes dans une filière et que vous êtes obligé de dispatcher ces demandes sur d'autres filières ?
C'est la difficulté. Je l'ai noté tout à l'heure. C'est vraiment la difficulté de cet équilibre des sections. On peut dire qu'on a de la chance dans la mesure où, vous voyez, 90% des élèves qui ont leur premier vœu, ça veut dire que, voilà, donc ça se passe bien pour 90%. Alors, sur les 10% qui restent, c'est vrai que là, c'est. Oui.
Sur les 30 ou 40% qui ont changé d'avis à
l'Orépasso. Mais ils ont changé d'avis entre le moment où ils ont fait acte de candidature et le moment où ils ont fait leur vœu. Oui. Une fois qu'ils ont fait leur vœu, ils indiquent ce qu'ils souhaitent faire.
On ne force personne.
Et donc la commission d'orientation, on constate qu'on peut donner un avis favorable à 90% qui ont fait dans le premier vœu.
En fait, je pense que ceux qui changent d'avis, c'est ceux qui viennent, par exemple, faire électrothèque et qui s'aperçoivent que chaudronnerie, ils ne connaissaient pas du tout, mais ne savaient même pas que ça existait. Et du coup, ça les intéresse beaucoup plus. Mais ce n'est pas nous qui allons leur dire « Ah non, attends, tu ne peux pas aller là parce qu'il n'y a plus de place, il faut que tu ailles là. »
Mais c'est vrai que la question de la frustration, elle existe. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le niveau d'exigence peut monter d'un atelier à un autre. C'est-à-dire qu'un élève qui demande un vœu et qui a de très bons résultats dans ce vœu, il est sûr de l'avoir. Ça va se jouer où ? Ça va se jouer sur les élèves qui ont effectivement des résultats qui sont moyens, médiocres ou mauvais. Alors après, le niveau d'exigence, si on choisit agencement ou si on choisit MECA, va pas être exactement le même. C'est-à-dire que comme on a plus de demandes en agencement, ben le niveau d'exigence sera un peu plus haut que le niveau de MECA, ça c'est évident. C'est une des limites du système. Et je ne sais pas si vous avez une clé. Mais encore une fois, on s'aperçoit effectivement que la question des choix était quand même extrêmement complexe. Bon, moi j'ai rencontré chaque élève de la classe de seconde pro technicien d'usinage parce qu'on avait des difficultés un petit peu dans cette classe et on pensait que c'était lié à l'orientation. Une classe qui était un peu plus remuante qu'ailleurs. Bon, j'ai interrogé individuellement chaque élève et ils sont combien, une vingtaine? Sur une vingtaine d'élèves, il y en avait deux seulement qui étaient pas contents de leur choix, alors que sur cette classe, il y en avait un pourcentage de 30% au moins qui n'avait pas mis le technicien d'usinage en premier choix. C'est vrai qu'il y en a quand même ceux qui ont mis, qui sont affectés dans un deuxième vœu, peuvent évoluer par rapport à ça et prendre goût au métier. Ça ne veut pas dire que c'est perdu parce qu'ils sont affectés dans leur deuxième vœu. C'est les limites du système. C'est les limites du système. On a tous fait conscience. Donc c'est pour ça que le temps d'accompagnement, de dialogue, est extrêmement important dans le système. Il faut bien prendre le temps d'expliquer.
Il faut dire aussi que dans les raisons pour lesquelles il y a des changements de choix, il y a celles qu'effectivement mes collègues ont dites, c'est-à-dire qu'ils découvrent des métiers qu'ils ne connaissaient pas du tout, donc ils ne pouvaient pas choisir tant qu'ils ne les connaissaient pas. Mais il y a aussi des élèves qui arrivent avec un choix qu'ils ont bien en tête, qui repose sur des représentations du métier et de l'activité qui sont fausses, et ils découvrent par eux-mêmes que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire, voire même qu'ils n'ont pas les aptitudes du tout pour cela, et ils changent d'avis d'eux-mêmes.
Mais bon, c'est clair que c'est pas magique, hein, c'est pas.
Oui, bonjour. Juste une question, moi, sur le choix de vos critères pour définir les choix d'orientation de l'élève. Un élève qui sort de collège a très peu, voire pas du tout, de culture technologique. Donc, professionnellement parlant limité. Alors, dans ces 4 semaines, vous pouvez évaluer ses compétences professionnelles pour un élève qui va choisir cette orientation? Parce que le but du jeu, c'est quand même qu'après, nous, on a 3 ans pour les former à acquérir des compétences professionnelles. Il y a un jeune qui sait déjà, en entrée de formation, faire beaucoup de... qui possède des savoir-faire dans un domaine professionnel doit être très rare. Donc l'évaluer là-dessus, est-ce que c'est pertinent et est-ce que vous le faites ?
J'ai tendance à dire qu'entre ça et rien, c'est quand même plus pertinent. Je veux dire, à l'heure actuelle, à part ceux qui sont passés par les DP6, hein, par exemple, les élèves ont peu de moyens de connaître concrètement les métiers. Donc nous, on propose 5 semaines. Bon, avant, on en proposait 7, on est passé à 5, hein, du fait du bac pro 3 ans. On pense que c'est pertinent, même si c'est pas parfait, même si on n'est pas dans la certitude absolue. On pourra jamais dire que, avec une certitude absolue, qu'un élève est absolument incapable de faire tel métier. Bon. Et encore une fois, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois l'élève qui découvre l'activité, qui découvre un environnement, qui découvre une activité, qui découvre des machines, du matériel, qui dit bah tiens, je suis bien là-dedans, que en sens inverse, le prof qui évalue en disant tu es bon pour faire tel ou tel métier. Donc je pense entre rien, ce qui est à l'heure actuelle le cas, hein, et puis ça, je pense que ça c'est meilleur que rien.
Et puis mes collègues ont insisté sur le fait que c'était une évaluation dynamique. Je parlerai de l'équivalent en français histoire-géographie demain, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas tant l'élève à un instant T, en particulier quand il arrive, ou à la fin de la semaine, mais on évalue essentiellement ses capacités d'évolution. Et ça, c'est relativement plus prédictif.
Ses prédispositions, finalement. Il me semble que c'est vraiment ces prédispositions à pouvoir intégrer telle ou telle filière. C'est vraiment des prédispositions au-delà de tout ce qui est compétences, capacités, etc. C'est des prédispositions.
Je voulais savoir, justement, pour la connaissance des métiers, le lien avec l'entreprise est forcément important pour le jeune. À quel moment dans les 5 semaines interviennent, il y a une intervention de l'entreprise ou une visite d'entreprise ?
Dans le passé, on faisait des visites d'entreprise parce qu'on avait un peu plus de temps. Il y a eu une époque où on avait 6 semaines. Et on travaillait sur trois métiers seulement, donc on avait 2 semaines par métier. Donc on pouvait se permettre de faire une visite d'entreprise. Là, c'est pas possible. Alors la chance qu'on a, c'est précisément les ateliers de production, hein, parce que les professeurs techniques sont confrontés à la réalité de l'entreprise, puisqu'ils travaillent pour des entreprises. Donc ils sont confrontés à la réalité d'entreprise. Alors si on avait plus de temps, on ferait systématiquement une visite d'entreprise. Parfois, on a des anciens élèves qui viennent de l'entreprise, qui viennent intervenir auprès des jeunes. Mais là, on n'a pas le temps. Mais je pense que la culture de l'établissement est suffisamment proche de l'entreprise pour pas trop se tromper. J'ajoute par rapport aux tests que ces tests sont l'objet, effectivement, comme on l'a dit, d'une maturation, d'une réflexion. On essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus significatifs possible. Alors, encore une fois, ils sont pas parfaits, mais ils sont relativement significatifs. Et puis moi, le plus important peut-être dans ce dispositif, c'est quand même que on valorise l'élève et que l'élève soit vraiment acteur en connaissance de cause ou le plus en connaissance de cause possible de son orientation. Je pense que c'est cet aspect-là qui me paraît aussi le plus important. Voilà, j'ai choisi un métier, mais j'ai pas choisi simplement sur des idées, des représentations ou sur la vie de mon papa, de ma maman ou des copains. J'ai choisi parce que j'ai découvert l'activité pendant une 20aine d'heures et que maintenant j'y vois un peu plus clair et je sais à peu près à quoi je m'attends.